dans tes cartons une bonne chanson pour cet enfant.
Boum.
Une chanson? Pourquoi faire?
Pour la chanter.
Boum. De ces chansons originales qu'on a déjà l'impression d'avoir entendues quelque part et qu'on retient tout de suite parce qu'on s'en souvient aussitôt.
Boum.
Boum.
Boum. Boum.
Boum.
Boum.
Chanson Boom, le magazine de la chanson de France Culture.
Boom, boom, boom.
Un divertissement proposé par Hélène Azéra.
Boom.
Boom, boom.
Bonsoir, chers amis de la chanson. Bonsoir. Ils sont cinq autour du micro, les cinq vaillantes têtes de chien qui vont nous chanter un répertoire aussi précieux que rare, la chanson traditionnelle française. Le deuxième CD qu'il nous propose s'attache à un répertoire spécifique, le répertoire religieux. Des chansons lumineuses comme un vitrail qui passent du mysticisme à une description de la vie quotidienne de l'époque. Justin Bonnet, Philippe Belay, Henri Costa, Didier Verdeil et Grégory Veux nous interprètent un classique de la chanson traditionnelle religieuse, Jésus-Christ s'habille en pauvre.
Jésus-Christ s'habille en pauvre, faites-moi la charité, des miettes de votre table, je ferai bien mon souper. Les miettes de notre table, mes chiens les mangeront bien. Ils me rapportent des liens, et toi tu n'apportes rien. Belle dame à la fenêtre, faites-moi la charité, amontez, montez, pauvre homme, avec moi vous souperez. Quand ils ont quitté la table, ils demandent à se coucher, amontez, montez. Il demande à se coucher. Ah, n'ayez pas peur, madame. C'est la lune qui paraît. Dans trois jours, vous serez morte. Au paradis, vous irez.
Direct du studio 107 de Radio France, c'était les têtes de chien qui vont regagner les fauteuils et les micros où l'on parle. Petite explication, il y a plusieurs répertoires religieux. Il y a celui qu'on chante dans l'église et il y a celui qu'on chante hors de l'église, que souvent l'église ne voit pas d'un très bon œil parce qu'il y a des miracles un peu partout, tout le temps, enfin une petite odeur de paganisme.
On pourrait dire que ça n'est pas du répertoire religieux. Je pense que c'est du répertoire du légendaire chrétien. C'est le choix qu'on a fait pour l'appeler.
Oui, on disait la religion populaire chez les prêtres pour parler de toutes ces pratiques religieuses. Pas forcément.
Ce ne sont pas des chants d'église, en tout cas, pas du tout.
C'est intéressant parce que vous faites un premier disque sur des chansons qu'on ne chante pas beaucoup, les chansons traditionnelles, et vous faites un deuxième sur des chansons qu'on chante encore moins. Alors, il y a eu des interprètes hein, de ce répertoire. Il y a eu une dame bretonne qui s'appelait Alix Cognan, voilà. Qui avait fait un album formidable qui s'appelait Le Pommier Miraculeux. Et puis, Yvette Guilbert, on va passer à une archive un peu plus tard, quand elle a eu assez de chanter des grivoiseries, elle s'était mise dans le répertoire de la chanson ancienne. En fait, c'est presque la moitié du répertoire, le répertoire religieux. On ne peut pas rentrer dans la tradition sans se retrouver dans ce répertoire miraculeux ou je ne sais pas.
Enfin, on peut dire en tout cas qu'on a fait un deuxième programme entre ces deux-là, mais que nous n'avons pas encore eu l'opportunité de l'enregistrer.
Oui.
Ça s'appelle La Grande Ville.
Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vous attaquer à ce répertoire ?
En fait, dans Portrait d'homme, notre premier...
Justin Bonnet.
Notre premier album, on avait déjà une petite passion, un réveillé.
Oui.
Parce qu'effectivement, comme vous le dites très bien, quand on s'attaque à ce répertoire-là, inévitablement, on
tombe... Le religieux arrive.
Le religieux, c'est un terme qui ne nous met pas complètement à l'aise. Pour nous, c'est d'abord des chants de veillée. Et autant on peut parler de Jeannette qui va avec son cruchot chercher de l'eau, autant on peut parler de Marie qui rencontre Joseph. Et finalement, pour nous, c'est des personnages de l'imaginaire de ces paysans qui chantaient ces chansons-là. Je ne sais pas si la connotation proprement religieuse est si importante que ça. C'est l'ensemble de ces mythes, de ces histoires. Mm-hmm. Et en l'occurrence, pour la Marelle, on a eu l'envie de les mettre ensemble autour de cette thématique, en effet, pour des raisons aussi acoustiques, c'est-à-dire que tout d'un coup, ça nous permet d'aller chanter ce répertoire dans des églises, dans la pierre. Et nous qui sommes plutôt habitués au théâtre, c'est quand même un vrai bonheur pour des chanteurs à cappella.
Comment se passent les tractations avec ceux qui tiennent les églises? Ils sont plutôt contents. En plus, vous chantez sans micro dans les églises la plupart du temps.
Bien sûr, toujours à cappella, sans micro. Les tractations avec les églises, disons qu'il s'agit de festivals de musique sacrée. Voilà.
Et jamais vous avez dit « Ah non, pas celle-là quand même ».
Jusqu'à présent, non, je ne crois pas que ça soit présenté qu'il y ait réellement de tractation ou de censure particulière. Non, je crois.
Parce que bon, vous savez, il y a un marché de la chanson chrétienne et de la chanson catholique en France. Des chansons qui, la plupart du temps, n'arrivent jamais dans les radios. Il y a une espèce d'ostracisme. C'est drôle, parce que c'est quand même la religion dominante. Mais curieusement, c'est un marché qu'on n'entend pas beaucoup. Il y a eu le fameux Père Duval. Mais bon, vous êtes très très loin du Père Duval.
Ce ne sont pas des ecclésiastiques à guitare.
Oh, ben non, ils ont leur charme.
C'est vrai, c'est vrai.
Non, si la voix est belle. Alors, la petite chose aussi intéressante dans les chansons que vous chantez, c'est que... Alors, c'est religieux, c'est mystique, je ne sais pas ce que merveilleux chrétien, comme vous voulez. Mais en même temps, c'est des petits témoignages sur la société de l'époque. Jésus-Christ s'habille en pauvre, c'est l'époque où l'Église préférait les pauvres aux riches.
Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, ça devait être charitable, au moins en apparence.
Mais ça décrit, mon chien me rapporte quelque chose, toi tu ne me rapportes rien, vous voyez, le mépris social entre les pauvres et les riches, il est très marqué, il est très net. Et dans pas mal de chansons, on va avoir des idées, des travers de la société de l'époque.
Comme le disait Justin, c'est toujours de toute façon la chanson traditionnelle, une sorte de miroir
de la société,
de ceux qui la vivent, et avec cette fois-ci avec des chants plus mystiques ou métaphysiques, des questions un peu plus, on va dire, hautes. Mais c'est toujours l'homme qui finalement s'interroge sur sa place parmi les autres.
Alors évidemment, quand on arrive dans ce répertoire, il y a beaucoup de Sainte Vierge, puisque le catholicisme est toujours resté une religion mariale. Comment vous avez fait votre choix parmi plusieurs types de chansons mariales ?
Mais c'est avant tout une femme qui pleure et qui a besoin d'être protégée pour enfanter. Vas-y Justin, tu voulais parler ?
Non, en effet, ce qui est intéressant dans le répertoire populaire et traditionnel en particulier, c'est qu'on voit la Vierge pleurer, mm-hmm. Ce qui est quand même assez rare dans le dogme, mm-hmm. dans la liturgie. On évite ce qui est de l'ordre du cri, des larmes. Dans la chanson traditionnelle, il y a un espace pour ces émotions peut-être un peu plus naïves, un peu plus brutales, et ça nous a intéressé en particulier.
On va le retrouver par contre dans la sculpture.
Dans la sculpture, oui. Mais dans la musique, assez rarement, à part le Stabat Mater, qui est assez larmoyant, mais sinon, c'est quand même, il y a toujours une forme de sobriété.
Et c'est une époque où la mortalité infantile est absolument affolante, et on se dit que la déploration de la Vierge sur la mort de son fils, en fait, il y a très peu de femmes qui n'ont pas perdu des enfants, qui ne sont pas dans ce sentiment.
C'était une époque où il y avait des pauvres et où les gens mouraient encore, mais ça, c'était avant.
Peut-être vous pourriez nous en tenir. Vous les liez pas.
On va enchaîner.
Alors, on enchaîne deux chansons sur la Sainte Vierge. La Sainte Vierge pleure dans son carreau d'argent, suivi de Bonne Sainte Vierge marchant sur terre. Les têtes de chiens en direct du studio 107 de Radio France.
La Sainte Vierge Bonjour, bonjour, vieillard bonhomme, n'avez-vous donc pas vu passer une belle dame pèlerine, son petit enfant dans les et piquons, piquons à nos chevals. Oui, piquons les biens d'un éperon. Depuis un an, la belle dame a fait chemin, allons-nous-en.
En direct du studio 107 de Radio France, c'était les têtes de chien qui vont regagner les fauteuils et les micros. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une petite gêne sur ce répertoire. C'est-à-dire que les gens ils visitent une cathédrale, ça ne leur pose pas de problème. Ils vont dans les musées regarder des vierges à l'enfant, il n'y a pas de problème. Et on leur chante une chanson, je ne sais pas quel mot il faut dire, ancienne, du Merveilleux Chrétien. Il y a une espèce de petite gêne.
Bah, en tout cas, là, il y a le parti pris de notre compositrice, Caroline Marceau, de la rendre jazzy, ce qui n'est pas du tout... Ce qui n'était pas du tout évident.
Effectivement, on peut le dire que dans la même idée, ça fait partie du patrimoine.
Oui.
Ça fait partie du patrimoine oral pour le coup, mais tout comme les églises ou les œuvres savantes sacrées, voilà, on peut les apprécier pour leur valeur esthétique, littéraire et sans forcément faire allégeance aux.
Il y a un renouveau du gospel en France avec des choses un petit peu touchantes, avec des enfants de cité qui chantent une tradition qui n'est pas du tout la leur, mais qui est quand même des choses magnifiques. Et pareil avec des textes qui sont aussi, pour les spirituals des Noirs américains, c'est aussi un témoignage sur l'esclavage et ce qu'ils ont vécu. Et ça gêne moins que quand on leur chante la Vierge Marie ou Joseph ou Dieu sait quoi.
Moi, je passerais ça sur une espèce d'inconscient collectif autour de la messe, autour du rituel de la messe, où on était un peu toujours obligé de chanter quand on y allait.
Henri Costa.
Et je pense qu'effectivement, ça, il y a peut-être un côté, la notion d'enfant de cœur qui à l'œuvre, qui fait qu'effectivement, dès qu'on se met à chanter, et ça peut dégager une espèce de raideur, ou alors ça nous ramène à ce rituel de la messe, même si effectivement aujourd'hui c'est peut-être moins le cas que pour les générations précédentes, mais la génération de mes parents, moi ou mes grands-parents, se posait pas la question de savoir s'ils allaient à la messe, c'était quelque chose qui était dans l'ordre, dans l'ordre des choses. Donc ce chant d'un coup ça...
Ce chant qui n'a strictement rien à voir avec les chansons qu'on chantait à la messe.
C'est vrai, mais pour autant, les thématiques ou l'image.
C'est pas
de la Vierge
tu es mon berger au Seigneur ou des choses comme
mais
ça.
Mais le fait qu'on puisse, nous, à partir de les chanter dans les églises ou réinvestir les églises fait effectivement, comme le disait Justin, je vais citer Justin ici présent.
Justin Bonnet, qui est le directeur artistique de l'affaire.
Je cite mon directeur artistique. Il dit effectivement, on chante dans les églises, mais on ne chante pas à genoux avec ces chants. du légendaire chrétien.
Cette petite gêne, effectivement, qu'on a en particulier sur ces chansons du légendaire chrétien, on l'a aussi sur la tradition orale en général. On est quand même, nous, d'accord, Français, assez loin de cette chanson. Si on compare aux Catalans, aux Italiens, nous, il y a quand même une espèce aux Russes, c'est se faire un peu violence que de redire à notre public ce répertoire, le nôtre et le vôtre.
Parce que
ça va pas de soi.
Musicalement, ça n'a rien à voir avec la façon dont c'était chanté, puisque vous le chantez en polyphonie, alors que, je crois, ces chants, le plus souvent, étaient chantés en monophonie.
Oui, c'est du répertoire complètement monodique. Effectivement, on sort ce répertoire complètement de son contexte pour essayer de dire que c'est du répertoire qui, précisément, n'est pas ancien, mais qui est du répertoire que nous, on pratique, qui est notre pain quotidien.
Vivant.
Vivant, oui.
Et d'ailleurs mis en polyphonie par Caroline Marceau, pour ne
pas citer son nom.
Pour la citer.
La chose intéressante, c'est que les chansons, c'est sur plusieurs siècles. Il y en a certaines à l'oreille, on se dit ça, c'est vraiment ancien. La canne, c'est une chanson du 15e siècle, ça remonterait aux guerres d'Italie, on le voit dans le contexte de la chanson. Et puis il y en a d'autres, Catherine était chrétienne, ça c'est plutôt du 19e.
C'est en fonction des collectages, je crois.
Vous avez servi chez Achille Millien, pour qui j'ai une vénération sans borne, et je trouve que ces collectages devraient être dans la Pléiade. Le répertoire collecté est d'une richesse incroyable. Et quand est-ce qu'on entend une chanson traditionnelle à la radio Voilà.
Bon, on n'est pas les seuls, C'est vrai qu'on est peut-être...
Heureusement, oui.
Oui.
Moi, je vous propose d'écouter une archive passionnante. C'est Yvette Guilbert. Donc, vous savez, autour de 1900, Yvette Guilbert en a eu assez de chanter des grivoiseries. C'est vrai que c'est un peu lassant. Et elle s'est remise dans un travail. C'est ahurissant pour une chanteuse de variété, comme on dirait aujourd'hui, d'être allée passer des heures à la Bibliothèque nationale pour dénicher des chansons. Elle avait aussi tous les érudits de l'époque qui lui amenaient des choses. Elle a fait ça dans la deuxième moitié de sa carrière, tout en revenant de temps en temps à ses grivoiseries, parce qu'il fallait bien remplir les caisses. Et ça, c'est un enregistrement, ça date de l'occupation. Alors c'est un moment tragique, elle a dû fuir Paris parce que son mari était juif, il fallait qu'elle le sauve. Son appartement a été pillé par les bonnes âmes, et elle travaille à Marseille pour la radio nationale. Elle sort une chanson traditionnelle, et le grand jeu d'Yvette Guilbert, c'est de jouer avec son registre. Elle chante en fait sur trois ou quatre registres vocaux en passant de l'un à l'autre. C'est une chanson de procession, et elle va faire chaque personnage de la procession. Je vous propose d'écouter Yvette Guilbert, c'est le mai.
C'est le mai, c'est le joli mois de mai. C'est le mai, c'est le joli mois de mai. Quand nous allons de par les champs, quand nous allons de par les champs, avons trouvé les blés si grands, la blanche épine florissant devant Dieu. C'est le mai, c'est le joli mois de mai. Quand vous couchez votre bel enfant, quand vous couchez votre bel enfant, que Dieu le garde à son coucher et à toute heure de la journée devant Dieu. C'est le mai, c'est le mai, c'est le joli mois de mai.
C'est le mai, c'est le joli mois de mai.
votre farine, un petit brin de votre farine. C'est pas pour boire ni pour manger, c'est pour aider à avoir un cierge, pour illumer la bonne vierge devant Dieu. Madame, nous vous remercions. Madame, nous vous remercions de vos bonnes intentions. Nous prierons Dieu dans votre maison aussi quand nous en sortirons devant Dieu.
Vous ne pouviez être que sur France Culture dans Chanson Boom, le magazine de la chanson. Elle vous intéresse, Yvette Guilbert, dans sa façon de s'occuper de la chanson traditionnelle?
Oui, c'est hyper daté, mais hyper touchant, parce qu'elle joue à la fois de sa voix sans humour, je crois pas. Enfin, moi, je suis assez touché de ces espèces de sauts d'octave qui pourraient faire rire, mais on a l'impression qu'elle invoque le monde entier, en fait, en utilisant la voix complètement dans le grave et complètement dans l'aigu, c'est très touchant. C'est aux antipodes de notre travail, mais en même temps, c'est la même source. Oui, c'est une Guyanée, on en chante aussi des chants de quête.
La chose que vous avez en commun, c'est que vous aimez ça et vous voulez essayer de faire passer le message. C'est beau quand même.
Et on le fait librement, sans vouloir répondre à aucune esthétique particulière, comme elle le fait. Elle le faisait comme elle en a envie, on fait la même chose. Aujourd'hui, comme on peut, comme on est.
Et surtout, la même chose, je dirais, pour que le texte soit entendu.
Ah oui. Ça, avec Yvette Guilbert, le texte c'est magnifique. En avant, la diction, c'est ahurissant. C'est Emma Calvé qui lui avait dit que, après l'avoir écoutée, elle avait pris sa meilleure leçon de diction. Comment on agence les chansons les unes aux autres, étant donné que le répertoire est grand? C'est Grégory qui va parler. Grégory veut.
Grégory veut. Comment on les agence? En fait, il y a plusieurs fils conducteurs pour les agencer. Il y a le fil dramatique, enfin, il y a le fil de ce que ça raconte et qui est assez proche aussi du calendrier chrétien, pour le coup. Et puis, il y a un fil purement musical et harmonique qui fait que telle couleur harmonique appelle telle chanson ensuite. Donc, on essaie de composer avec ces deux, entre autres, avec ces deux aspects-là pour dérouler ces deux fils et faire qu'ils se nouent joliment jusqu'au bout.
Et puis aussi, comment lier des chansons qui ne sont pas du tout de la même époque. Il y a des chansons autour du XIIe siècle, XIIIe siècle, il y en a, c'est le XVIIIe.
Oui, ça, je ne sais pas si ça a été un critère de dater les chansons pour les placer dans un ordre chronologique. En tout cas, non, je ne crois pas qu'on soit attaché à ça.
On n'aborde pas du tout la tradition orale comme de la musique d'avant. Ces chansons, elles nous ont été transmises pour certaines par Alix Cognam, qui vit encore et qui les a reçues elle-même de gens qui lui ont chanté des chansons ou qui ont été collectées. On est dans cette transmission, nous, et on s'interroge jamais, en fait, sur quand cette chanson aurait pu être chantée pour la première fois. C'est des questions de spécialistes sur lesquelles ils se mangent les doigts.
Oui,
donc on leur laisse se poser cette question. Et pour nous, c'est de la musique vivante d'aujourd'hui, en fait.
Le seul problème, c'est que la musique d'aujourd'hui, ça vieillit très vite. Mais bon.
Mais on sait bien qu'on ne survivra qu'à nous-mêmes.
Et aussi, la chose importante, c'est la scénographie. Comment habiller ces chansons en gestes, en... Ou alors, est-ce que vous allez rester dans une chose un petit peu Frère Jacques, où il y avait une scénographie très importante?
D'ores et déjà, on est le metteur en scène, Annabelle Stéphanie, qui est là pour nous guider ou nous soutenir, ou nous inspirer. Et on a déjà, que ce soit une église de village ou une cathédrale, on a toujours un cadre qui est déjà fort, fort théâtral pour donner à entendre tous ces chants. Donc, c'est pas si compliqué parce que tout ce qu'il y a à raconter, tout ce qu'il y a à dire, tout ce qu'il y a à incarner avec les personnages de ces chansons, dans une acoustique réverbérante, souvent dans des pierres qui ont elles-mêmes traversé les âges. Donc, on n'a pas grand-chose à faire si ce n'est à organiser un peu l'espace, savoir où se placer quand on chante ce spectacle en concert, où se placer, par où rentrer, par où ressortir, mais ça reste. J'ai envie de dire qu'on fait avec la nature même de l'église ou du temple. Ça nous est aussi arrivé de chanter dans un ouais. temple, mais du lieu dans lequel on se trouve. Et ça s'emboîte souvent très bien. C'est-à-dire que la scénographie est déjà là quand on arrive. Quoi. Ouais. Et on a plus qu'à, j'ai envie de dire, s'adapter à la réalité de l'espace qui nous est proposé.
Henri Costa, vous êtes plutôt sur une chose un peu statique?
Non, on se déplace beaucoup.
Vous vous déplacez beaucoup?
On se déplace beaucoup. On se déplace beaucoup et on...
On fait du musical, quoi.
On fait du musical, absolument. Il y a une entrée en escalier. Il y a une entrée dans les fins. On commence même le spectacle à l'extérieur de l'église, pour ne rien cacher à nos auditeurs. Et on ressort de l'église également à la fin. Donc c'est vraiment, il y a cette volonté d'être entre le profane et le sacré. On rentre et on ressort. Et on se déplace beaucoup et on se sale l'acoustique dans tous les sens. Et on tâche de trouver, on entoure les gens, on va des fois se placer à tel endroit de la nef, et on va chercher le meilleur son et également la meilleure visibilité, donc tout ça s'emboîte assez harmonieusement.
Et puis on a eu une occasion, même si c'était pas le projet au départ, de chanter dans un auditorium à Bordeaux, oui. Magnifique auditorium de Bordeaux. On n'était pas super chaud, on se disait non, on va peut-être pas faire ce programme-là. Mmh. Et finalement, le programmateur a insisté. On était très heureux de voir que, pour le coup, dans une atmosphère faite simplement pour la musique, sans aucune connotation religieuse, les choses passaient sans doute très différemment. Le public sans doute ressent les choses d'une manière plus sobre, peut-être. Mais ça fonctionne aussi très bien dans une situation qui n'est pas une situation d'acoustique, de pierre et d'église.
Alors, vous vous dites qu'il y a des chansons que le public connaît plus que d'autres. Le fameux Catherine était chrétienne, la zimboum boum, la zimboum boum. Bon, qui, voilà, c'est pas une chanson du Moyen-Âge, hein. On voit bien que c'est une chanson moderne. Mais est-ce qu'il y a des gens qui viennent me voir en disant j'ai redécouvert des choses que me chantaient mes parents ou des choses comme ça?
On est toujours super touchés quand on voit les gens bouger les lèvres pendant nos concerts. Ça, on adore ça, quand les gens connaissent des bribes, se rappellent, ou même parfois, quand c'est des chants à répondre, ont envie de chanter. Et c'est vrai que les gens ont envie de chanter. Et ils sortent souvent de scène en disant oh, « qu'est-ce qu'on aimerait chanter avec vous ?» Et ça se passe. Quand on a l'occasion, on fait chanter aussi le public avec nous, à condition qu'on puisse le répéter un peu en amont. Donc il y a ce partage-là. Et oui, bien sûr, qu'on va toucher dans la mémoire des gens, d'une manière plus ou moins consciente, mais les anciens, effectivement, connaissent Catherine était chrétienne mieux que nous, parfois.
Parlez-moi de la comptine des coqs. Quelqu'un qui connaît très rien du passé de la France, il va à votre répertoire, et y compris qu'à une certaine époque, le religieux, c'est du soir au matin.
La religion, le sacré et le profane n'étaient pas coupés. Il n'y avait pas de nécessité à se dire... Est-ce que c'est sacré ou pas? On s'en foutait. Ça faisait partie de la culture générale. Et ça, oui, on a envie de le défendre. Et cette comptine des poules et des coqs...
Justin Bonnet.
Effectivement, ça fait partie d'un espèce de petit rituel, mais complètement païen, pour le coup. Mon grand-père faisait ça, en Auvergne. Il sortait la nuit, souvent la semaine sainte, entre le jeudi et le vendredi saint. Les jeunes hommes sortaient, mais vraiment en pleine nuit. Et puis, ils allaient réveiller les gens.
Ah, les fameux réveillés.
Ils allaient faire des réveillés.
On leur offrait des œufs, c'est ça?
On leur offrait des œufs et du coup, tout un répertoire autour des poules, des coqs, pour remercier les gens qui auront bien voulu donner quelques œufs pour pouvoir faire une omelette après la quête.
Oui, donc là, on est vers 1900, 1920. À cette époque, c'est encore très fort.
Oui. En Auvergne, c'était encore très présent en 1920. Et puis dans le Morvan, on continue à le faire. Alors c'est
le Morvan rouge.
Le Morvan rouge. à la Maison du patrimoine oral, ils continuent à organiser des réveillés et à en faire de temps en temps. Alors c'est évidemment plus rare, mais ça existe encore.
Mais en Catalogne, c'est vivant. Hein. C'est pas la nuit, c'est de faire passer des œufs, les faire descendre d'une fenêtre dans un panier. Mmh. Ça se pratique. Encore maintenant.
La comptine des coqs. Vous ne serez pas obligé de me donner des œufs. Philippe Belay, Didier Verdeil, Henri Costa, Grégory Veux et Justin Bonnet, des têtes de chiens, vont vous chanter la comptine des coqs.
C'est la poule noire qui pond dans l'armoire, c'est la poule blanche qui pond sur sa planche, c'est la poule grise qui pond dans l'église, c'est la poule brune qui pond sur la lune, c'est la poule noire qui pond dans l'armoire, c'est la poule grise qui pond dans l'église. C'est la poule blanche qui pond sur sa planche, c'est la poule brune qui pond sur la lune, c'est la poule noire qui pond dans la mare, c'est la poule blanche qui pond sur sa planche, c'est la poule brune qui pond sur la lune, c'est la poule grise qui n'a jamais chanté, c'est la poule noire qui n'a jamais entendu chanter.
En direct du studio 107 de Radio France. Alors, on va continuer dans cette idée de chansons religieuses ou pas, elle est quand même témoin de l'époque. Et c'est vrai que dans tout le répertoire français, mais j'imagine dans d'autres répertoires, il y a une constante, c'est les violences faites aux femmes. C'est une chose qu'on entend beaucoup. Alors, vous avez plusieurs strates. Vous avez la mot mariée, la femme qui est mal mariée et qui se plaint. Et puis, il y a les chansons directement sur les violences faites aux femmes. J'ai découvert la chanson que nous allions entendre, mais là, dans la version CD, il fallait quand même passer votre CD, vous n'en voulez pas, c'est La Canne. J'ai découvert cette chanson sur une anthologie, je crois, de Cope Brise sur les grandes complaintes de Haute-Bretagne. Et c'était une dame âgée dont, hélas, je n'ai pas le nom, qui chantait cette chanson de façon absolument admirable, avec très, très, très peu d'intonation, d'émotion dans la voix. Là, on voit que vous êtes quand même assez loin du style de la chanson traditionnelle, encore que la chanson traditionnelle, chaque individu, il chante la chanson à sa manière. On peut pas dire c'est comme ça qu'il faut chanter. On a quand même l'impression qu'on n'est pas du tout au Cafcons où Yvette Guilbert, elle martèle ses mots, mais que tout est fuse. Comment vous êtes tombé sur cette chanson qui est devenue célèbre avec cet album de Cope Brise?
Je crois que c'est Alix Cognam.
Ah oui, elle l'avait reprise.
Oui, c'est bien ça. C'est notre source à nous, elle-même ayant Cope Brise dans le...
Et donc, il y a des éléments historiques qui laissent entendre que c'est situé pendant les guerres d'Italie.
C'est vrai.
Ça accuse les Français, quand même. Donc, on n'est pas dans...
Ça accuse les hommes.
Ça accuse les hommes, mais c'est les armées françaises. C'est les armées françaises qui sont visées. Donc, on n'est pas dans le refus de la repentance. Pareil, elle vous a touché tout de suite.
Mélodiquement, elle est hallucinante, cette chanson.
Merveilleuse.
Mais c'est très intéressant ce que vous dites sur... Je travaille souvent avec un chanteur occitan qui s'appelle Peyre et Boissière et qui dit qu'il faut savoir ménager une certaine inexpressivité. Effectivement, nous, c'est pas le c'est pas ce qu'on est. Donc, on chante, nous, avec potentiellement pas mal d'expressivité. Je crois qu'effectivement, c'est un répertoire où il n'y a pas vraiment de règles. Et c'est aussi pour ça qu'on s'en empare librement. Mais cette forme d'inexpressivité qui, moi, me touche beaucoup. Et c'est vrai, une signature de beaucoup de chanteurs traditionnels.
Oui, c'est la tabula rasa. On ne marque aucune émotion. Et c'est à l'écouteur de... Ça dépend aussi des chanteurs.
Ça dépend des chanteurs, oui, mais...
Je dis que la chanson est un art sans règles, qu'en fait, la seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est d'être ennuyeux.
Mais les chanteurs traditionnels se le permettent, parfois.
Ils ont bien raison.
On écoute la canne.
La fille changée en canne.
La fille changée en canne. Les...
Je vais vous dire une chanson, c'est d'une fille et d'un garçon, c'est d'une fille d'Italie, au grand Dieu dont qu'elle est jolie. Un jour que sa mère la peignait, tous les soldats la regardaient. Elle n'avait pas si tôt peigné que les soldats l'ont enlevée. La mère allait toujours pleurant, la mère allait toujours disant: soldat, soldat, rends-moi ma fille, je t'y donnerai 500 000.
La mère, gardez-va votre argent. La mère, gardez-va votre argent. Votre vie est bien trop jolie pour y vivre dans ces vaudrilles.
Le capitaine en la voyant, le capitaine en la voyant, la voilà donc cette jolie fille. Le capitaine dit aux soldats: montez-la donc dedans ma chambre, nous parlerons d'amour ensemble.
Mon bon monsieur, permettez-moi, mon bon monsieur, permettez-moi, permettez-moi.
Jamais pu tuer. regardant, le capitaine la regardant. Si je t'avais cru fille aussi sage, je t'aurais prise en mariage.
Canne qui lui dit si tu crois que t'es fait pour épouser des filles comme moi, c'est vraiment magnifique. Et du coup, ça termine pas dans la victimisation. C'est émouvant hein, de chanter une. Elle touche le public tout de suite.
Bah, c'est un tel récit. Moi, j'ai tendance à la comparer à un long métrage, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des ellipses, il y a tant de personnages à défendre. Elle touche le public, enfin, nous semble-t-il, hein, quand on la chante, et après l'avoir chantée. Elle est sublime, et elle est d'autant plus, dans le cadre de notre travail, que l'arrangement de Caroline Marceau, je trouve, est venu la chercher nos cinq voix avec, avec talent et désir. Moi, c'est toujours un immense bonheur de chanter. Cette histoire de jeune fille changée en canne.
Pour échapper
à pas mal de choses.
À pas mal de choses.
Au mariage, à un capitaine, à des soldats.
Fin... Non, il ne veut pas la marier au départ. Hein.
Non, mais...
c'est clair. Il veut consommer tout de suite.
Voilà. Mais, donc oui, c'est un... Effectivement, comme vous le disiez, se servir de la chanson traditionnelle pour parler d'aujourd'hui, c'est...
C'est jamais deux fois pareil. Moi, j'ai toujours l'impression de la redécouvrir.
Oui.
Puisqu'on prend la parole à chaque fois, les uns après les autres. C'est en fonction de ce qui précède, ça change tout. Elle est recréée à chaque fois.
Absolument.
Bah oui, les images, la mère en train de laver les cheveux de sa fille, les soldats qui viennent. Enfin, c'est une violence quand même très très forte.
Et on a aussi la jeune fille qui ne veut pas se convertir, qui veut rester protestante. Qui ne veut pas aller à la messe.
Et que sa mère dénonce.
Sa mère dénonce.
C'est sa propre mère qui la dénonce, c'est ça qui est terrifiant.
Et envoie au bûcher.
Oui, dans les cruautés. Alors vous savez qu'il y a une autre version de cette chanson où c'est une catholique qui est brûlée par les protestants.
Voilà.
On m'a dit.
Tout est là.
On m'a dit.
Un point partout.
Un point partout. Vous avez une tendresse particulière pour les chansons qui racontent des histoires ?
Ah, mais c'est certain, oui.
Pour les chansons qui racontent des histoires et pour les chansons qui ont des mélodies aussi belles que celles qu'on vient d'entendre. Oui. Enfin, personnellement, moi, c'est ce qui m'attendrit, ce qui m'attache à une chanson. C'est à la fois l'histoire qu'elle raconte et la beauté de sa mélodie, oui.
Un autre de votre CD, Le Jardin de l'Ange.
Te souviens-tu, Marie-Madeleine, de ces grands vents qu'on t'inventer. Te souviens-tu
messieurs les têtes de chien, on ne chante pas ce répertoire en restant indemne de quelque chose. Qu'est-ce que ça remue en vous, ces chansons assez anciennes, assez populaires, qui nous sont arrivées en passant d'anonyme à anonyme?
Bien, moi, je voulais chanter
Didier
du lyrique.
Didier Herdeillet, oui.
Et c'est ce que je faisais.
Oui.
Et maintenant, je chante du traditionnel. Voilà. C'est rentré complètement dans ma vie.
En quoi? En quoi ça vous a changé de chanter ce répertoire?
J'ai l'impression de pouvoir m'adresser plus directement aux gens avec ce répertoire.
Mmh.
Surtout qu'on est souvent dans des contextes, même quand c'est quand il y a beaucoup de monde, on voit le public, on chante vraiment pour eux, on chante avec eux.
Allez, chacun, à confesse, à dire en quoi
à confesse.
Ce répertoire le change.
À titre personnel, moi ça a fait un lien très fort entre... tout l'aspect théâtral de ma vie professionnelle et en même temps le fait que ça a toujours chanté à la maison. Je dis bien ça a chanté, sans forcément sans chanter lyrique, mais il y a toujours eu de la musique. Donc d'un coup, effectivement, moi c'est j'ai l'impression d'être au cœur de peut-être au cœur de ma démarche professionnelle et humainement aussi. C'est vraiment, on commence à se tirer les pompes, mais humainement, la réalité de notre relation artistique est très intime avec ce répertoire, avec Grégory Veux, Justin Bonnet, Philippe Bellet et Didier Verdeil qui m'entourent. Voilà, je trouve qu'il y a une sincérité, une sensibilité et une simplicité que moi, j'ai jamais trouvé ailleurs. Et donc, voilà, ce chant, cette... je sais pas si je suis...
Grégory Veux, il y a aussi cette idée que dans vos carrières, tous avant, vous chantiez des chansons d'auteurs et de musiciens, ou alors des textes que vous jouiez au théâtre, dont on connaissait les noms. Là, c'est des anonymes.
C'est des anonymes, oui. C'est vrai que... Bon, moi, j'ai pris l'habitude aussi de... En accompagnant Claire Elzière au piano, donner à entendre des choses qui ne sont pas forcément non plus extrêmement... connu du public, sans être anonyme évidemment. On ne peut pas dire de Pierre Louqui que c'est un anonyme, ni d'Alain Leprest évidemment, mais en tout cas, il y a cette même idée de donner à entendre des choses qui sont absolument somptueuses, tant poétiquement que musicalement, qui nous lient tous les cinq quand on les chante ensemble, et ça c'est... Je ne suis pas sûr que les mots puissent décrire ce qui se passe quand on chante, ce qu'on ressent et ce qu'on ressent de vibrations communes à cinq, et ce qui se transmet très directement, comme le disait Didier, au public, les yeux dans les yeux, ou les yeux dans les oreilles, ou les oreilles dans les oreilles, je ne sais pas comment dire, mais de corps à corps. Enfin, il y a vraiment l'idée d'embrasser quelque chose, je crois, oui.
Justin Bonnet, vous savez, c'est une vieille bagarre sur la chanson traditionnelle. Vous avez les nationalistes qui disent « c'est l'âme du peuple » et vous avez les progressistes qui disent « c'est la voix du prolétariat ». Vous êtes de quel côté ?
Les deux. C'est vrai que je dis beaucoup que pour moi c'est de la musique d'aujourd'hui, parce que c'est mon quotidien, tout simplement. C'est avec elle que je vis du matin au soir, c'est celle que je pratique, celle que j'écoute. Et en même temps, sans doute que très intimement, puisque vous nous posez la question, c'est l'occasion pour moi de me connecter de manière très étroite avec tous ces chanteurs traditionnels que j'écoute, que je dissèque, que je note, que je réécoute parfois trois fois plus lentement qu'ils ne chantent au départ pour entendre tous les ornements et... Je crois que c'est une manière de, je sais pas, peut-être de culte à l'ancêtre, diraient les bouddhistes. En tout cas, ils sont en moi parce que je passe beaucoup de temps avec ces gens qui sont morts, mais qui me permettent aussi d'imaginer une musique qui vit maintenant, mais qui sait d'où elle vient.
Oh là là. Et vous, Philippe Belair, en quoi ça vous change, cette musique ?
Moi, ce que j'ai bien aimé dans vos propos, c'est de parler de l'anonymat, en fait, de ces... Pas de droit d'auteur.
Pas de droit d'auteur, voilà, c'est très pratique vis-à-vis de la SACEM. Non, je veux dire par là qu'on a une sorte de recul par rapport à toutes les plumes qui peuvent être très intéressantes où chaque auteur va mettre sa patte, son style. Là, cette chanson qui est passée au travers plusieurs générations, qui s'est transmise de bouche à oreille, comme ça, sur le principe du téléphone arabe, finalement, elle en garde cette essence anonyme et collective qui, moi, me touche beaucoup, parce qu'elle a une sorte d'hygiène, je dirais, par rapport aux plumes.
Je vous propose de terminer avec une chanson que vous allez nous chanter, Philippe Belay, Didier Vermeil, Henri Costa, Grégory Veux, Justin Bonnet, à 10h dans ses vers prêts. En direct du studio 107 de Radio France.
À 10h dans ses vers prêts, le carême est arrivé, le carême est arrivé.
À 10h dans ses vers prêts, le carême est arrivé, le carême est arrivé.
Le carême est arrivé, nous sommes en pénitence jusqu'à la quasimodo.
Faudra les filles attendre.
Le carême est arrivé, nous sommes en pénitence jusqu'à la quasimodo.
Faudra les filles attendre.
À 8h dans ses vers prêts,
le carême est arrivé, le carême est arrivé.
À 8h dans ses vers prêts, le carême est arrivé,
le carême est arrivé.
Le carême est arrivé, nous sommes en pénitence jusqu'à la quasimodo.
Faudra les filles attendre.
Le carême est arrivé, nous sommes en pénitence jusqu'à la quasimodo.
Faudra les filles attendre.
À 6h dans ses vers prêts, le carême est arrivé,
et le carême est arrivé.
À 6h dans ses vers prêts, le carême est arrivé, et le carême est arrivé. Le carême est arrivé, nous sommes en pénitence jusqu'à la quasimodo.
Faudra les filles attendre.
Le carême est arrivé, nous sommes en pénitence jusqu'à la quasimodo.
Faudra les filles attendre.
À 4h dans ses vers prêts, le carême est arrivé, et
le carême est arrivé.
Il y a 4h dans
cette verpée,
le carême est arrivé,
le carême est arrivé,
le carême est arrivé, nous sommes en pénitence jusqu'à la quasimodo.
Faudra les filles attendre.
Le carême est arrivé, nous sommes en pénitence jusqu'à la quasimodo.
Faudra les filles attendre.
Il y a 1h dans cette verpée, le carême est arrivé,
le carême est arrivé. Il y a 1h dans cette verpée, le carême est arrivé, le carême est arrivé.
Le carême est arrivé, nous sommes en pénitence jusqu'à la quasimodo.
Faudra les filles attendre. Le carême est arrivé. Nous sommes en pénitence jusqu'à la quasimodo. Faudra les filles attendre.
L'album des têtes de chien La Marelle est disponible chez Frémo. Le 17 septembre, les têtes de chiens seront à Saint-Julien-du-Sault. Le 6 novembre, ils seront à Saint-Omer. Le 24 décembre, ils seront à Malène, Sainte-Marie, chez nos amis belges. Ils disposent d'un site internet www.têtesdechiens, têtes au pluriel, chiens au singulier, tout attaché, .com. Vous pouvez écouter, réécouter, télécharger cette émission sur le site internet de France Culture. C'était Chanson Boom, Patrick Molinier, Hélène Azera, prise de son Jean-Louis Deloncle. Bonne nuit à l'écoute de France Culture.